Au fil des pages. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Jacques Pogam.
Bonjour, notre invité est aujourd'hui Max Gallo, dont je rappelle qu'il a été reçu à l'Académie française le 31 janvier 2008 et qui vient de publier chez Ixo un récit intitulé « Jésus, l'homme qui était Dieu ». Le livre sans doute le plus profondément personnel de sa très fructueuse carrière. Max Gallo, bonjour.
Bonjour.
Merci d'avoir répondu à notre invitation. Quand vous avez pris la décision d'écrire ce livre, qu'est-ce qui a été déterminant dans votre démarche? Est-ce d'abord une initiative de croyant? Est-ce d'abord une initiative d'historien? Ou encore une initiative de pédagogue habitué à ce que des dizaines de millions de lecteurs lui fassent confiance?
Pris la formule « quand est-ce que j'ai pris cette décision » est une formule qui recouvre une réalité, puisqu'à un moment donné, j'ai écrit un premier mot, donc il y a bien eu une décision. Mais en fait, c'est une décision qui s'étale sur plusieurs années. Je tournais autour de ce sujet, autour de Jésus en fait. J'y avais pensé il y a plusieurs années quand j'ai écrit trois récits regroupés sous le titre « Les chrétiens », où j'examine Saint-Martin, Clovis et Saint-Bernard, en me disant que c'était une tâche que je n'entreprendrais jamais et qu'il était sage de ne pas l'entreprendre. Et en même temps, moi, j'appartiens à la catégorie des écrivains qui écrivent pour connaître, c'est-à-dire peut-être se connaître, mais pour connaître, c'est-à-dire que l'écriture est leur moyen de connaissance. Et en fait, je me suis rendu compte que ces évangiles que je lisais de manière au hasard, d'une certaine, c'est-à-dire ouvrant les textes, lisant 3-4 pages, m'arrêtant, je me suis rendu compte que je ne les connaissais pas bien, que je ne les avais jamais appris, c'est-à-dire que je n'avais jamais écrit en les lisant. Et donc, au départ, ma décision, quand j'ai franchi le pas, a été dictée par le souci de relecture, de mise au point pour moi-même, avec un peu d'inquiétude en me disant « mais quelle prétention, on va imaginer que c'est une biographie parmi d'autres, que c'est le xième livre, la xième biographie que tu écris ». Et ça, ça me déplaisait, mais néanmoins, après avoir lu et relu les évangiles, après avoir lu et relu les apocryphes chrétiens, ou pas totalement, mais une bonne partie d'entre eux, eh bien, j'ai trouvé la musique de ce livre-là.
C'est-à-dire qu'en vous posant la question de la divinité de Jésus à travers sa vie, c'est aussi vous poser les grandes questions sur la mort, sur l'amour, enfin tout ça, c'est lié, c'est l'essentiel de la vie qui est en cause là.
Oui, tout à fait. Pour moi, la question est toute simple. Et c'est pour ça que je n'ai jamais été athée, même si je ne suis pas un catholique pratiquant, même si je prie chaque jour, mais je ne suis pas un catholique pratiquant. Je suis un historien, je suis un laïc, c'est-à-dire je suis pour la séparation de l'Église et de l'État. Bref, je ne sais pas si je correspond au profil habituel de ceux qui écrivent sur Jésus. Je pense à Mauriac, dont je cite en exergue un texte que je trouve admirable, que j'aimerais bien qu'on recite d'ailleurs.
Sans doute, une vie de Jésus, il faudrait l'écrire à genoux, dans un sentiment d'indignité propre à nous faire tomber la plume des mains. Cet ouvrage-là, un pêcheur devrait rougir d'avoir eu le front de l'achever.
Oui, ça m'a beaucoup fait hésiter, ce texte de Mauriac, mais en même temps, je ne suis pas du tout dans le même rapport à ce texte et donc à Dieu. Donc, je vois une personnalité plus fraternelle et vous avez prononcé le mot d'amour. Si vous voulez, je n'ai jamais été athée parce qu'il m'a paru que sur le plan à la fois de l'affectivité et sur le plan de la raison rationnelle, la réponse à la fois aux questions que pose l'affectivité et aux questions que pose la raison, la réponse, c'est la transcendance, c'est-à-dire un autre nom de Dieu.
Mais il ne peut pas y avoir une transcendance laïque à la Camus, par exemple ?
Je n'y crois pas. Je n'y crois pas, mais enfin, chacun, évidemment, a la réponse qu'il juge conforme à son être. Moi, si vous voulez, je pars du principe que j'ai été aimé dans ma vie, par mes parents, par exemple. J'ai aimé dans ma vie, j'ai donc éprouvé des sentiments. Pour moi, l'amour, je le définirais comme un miracle humain. Et je ne peux pas accepter en raison, je dis bien, et affectivement aussi, je ne peux pas accepter que toute cette énergie affective, que ce miracle humain se dissolve et disparaisse avec la mort. Donc, vous avez dit, c'est un livre qui pose les questions de l'amour et de la mort. En effet, c'est bien comme une réponse à la mort que se pose la question de la croyance. Et je suis de ceux qui pensent que la réponse rationnelle et affective, c'est la réponse dans la croyance en Dieu. Et à l'intérieur de cette croyance en Dieu, je suis catholique par mes origines, et en raison, je pense que la religion catholique, mais là, je sais bien que je serai contesté par d'autres croyants, et ils en ont parfaitement le droit, d'autres religions, je trouve que la religion catholique est celle qui est la plus aboutie, finalement, pour satisfaire mes questions à moi.
Alors, vous disiez qu'on a beaucoup écrit sur Jésus, c'est évident, mais on a mis du temps à écrire sur Jésus, parce qu'il a fallu attendre 70 ans pour trouver les premiers écrits sur Jésus, ou presque un siècle même. Alors, est-ce que vous excluez l'hypothèse que ces écrits soient le fruit d'une longue idéalisation, d'une espèce de structuration a posteriori, et qu'on ait idéalisé une réalité?
Vous posez une question tout à fait centrale, mais qui ne m'a pas concerné et ne me concerne pas. Parce que je n'ai pas voulu précisément poser cette question. Je sais bien, j'ai lu Renan, j'ai lu d'autres écrits sur Jésus, je sais bien toutes les polémiques, pas les polémiques, mais les questions historiques que légitimement on se pose. Moi, ça n'est pas du tout ma perspective. Ma perspective, c'est la vie et l'histoire sont pénétrées par le mystère. On donne après le contenu que l'on veut à la question du mystère. Mais c'est le mystère de la naissance, le mystère de la mort, le mystère de la vie, le mystère de la création de l'univers. Et je ne crois pas que la réponse scientifique, le Big Bang par exemple, puisse apporter une réponse. Elle déplace la question, elle la fait reculer, mais elle n'apporte pas de réponse. Donc, j'admets la question du mystère, et ça c'est ma première remarque, donc je ne cherche pas à me dire est-ce que les amphores remplies d'eau se transforment en vin, est-ce que c'est une manière de rendre présent le miracle. En réalité, il ne s'est rien passé, ce sont les écrivains qui ensuite, les évangélistes qui ont transformé ça. Ce n'est pas ma question. Ma question, c'est, voilà les textes, en effet écrits en gros un siècle, près d'un siècle après la crucifixion, voilà des textes nombreux qui ont servi à propager la foi. Et ce qui m'intéresse, c'est d'essayer de comprendre, en me plaçant à l'intérieur de ces textes, tels qu'ils sont, non pas s'ils reflètent la réalité ou pas, mais quelle est leur efficacité en termes de conviction. Comment à partir de ces textes, comment à partir de cette foi du charbonnier, on peut parvenir à la diffusion de la foi. Et c'est ça qui m'a intéressé. Donc, d'une certaine manière, j'essaie, en me plongeant dans ces textes, de retrouver la naïveté, maîtrisée, mais enfin la naïveté de celui qui entend lire ces textes ou qui les lit.
Il y a toujours cette voix intérieure, d'ailleurs. Vous dites que Jésus l'entend lui-même. Va, va, va.
Je suis content que vous ayez remarqué en effet. Ce leitmotiv, parce que ça, je trouve que c'est une remarque qui me satisfait beaucoup, une question qui me satisfait, parce que ce va, 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 il est adressé aussi à moi, c'est-à-dire par là à l'écrivain qui se dit, mais dois-je continuer? Est-ce que ça a un sens?
Il faut du culot pour faire ce que vous avez fait.
Je ne sais pas, mais enfin, dois-je continuer ou pas? Et va, 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 ça c'est un premier aspect, donc c'est l'aspect, je dirais, rapport de l'auteur au livre, qui doit surmonter ses doutes, mais c'est aussi la preuve que Jésus est pleinement homme, c'est-à-dire qu'il est lui-même dans la situation de dire « est-ce que j'accepte d'être Dieu ?»
Et là-dessus, d'ailleurs, vous dites des choses tout à fait nouvelles et étonnantes, on y reviendra, mais je voudrais, sur la méthode elle-même, puisque vous dites « je suis rentré dans les textes », vous avez choisi à votre manière, qui est celle de porter une réalité pour des lecteurs qui sont là en attente. Vous avez choisi la formule du récit et vous avez choisi de prendre comme fil conducteur, du moins pendant la première partie de ce récit, donc le centurion qui a été chargé de mener le supplice de Jésus, Flavius, qui n'était pas un enfant de cœur. Et pourquoi l'avoir choisi, lui?
Écoutez, c'est peut-être là le travers de romancier, mais je ne crois pas, parce que ce qui m'intéressait, puisque je vous ai parlé des conversions à partir de ces textes, ce qui m'intéressait, c'est de suivre le cheminement pas à pas de quelqu'un que rien ne prédisposait à la croyance en ce Dieu-là. Rien. Et vous savez que le personnage n'est pas inventé, le nom, c'est moi qui l'ai donné, mais dans l'Évangile selon saint Luc, il est présent précisément, on parle de ce centurion qui est au pied de la croix et qui s'interroge « et si cet homme était Dieu ?» réellement. Et donc, je vais refaire avec... Et beaucoup de lecteurs, j'ai reçu beaucoup de courriers pour ce livre, beaucoup de lecteurs, j'ose le dire, me félicitent d'avoir commencé par la fin. Et en discutant avec, je ne citerai pas son nom, mais un philosophe membre de l'Académie française, qui est en même temps un croyant et, je vais presque dire, un théologien.
Jean-Luc Marion, dit, non ?
Peut-être. me dit, c'est comme ça qu'il fallait faire, il fallait commencer par la fin. Parce que d'une certaine manière, c'est la fin qui explique cette vie. La mort, comme homme, et la résurrection. Et donc, en commençant par la croix, je brise, paraît-il, en tout cas, une habitude qui est de commencer par le début de cette vie. Et moi, je commence par la fin parce que j'ai senti un écrivain, mais aussi comme... un écrivain, donc un romancier ayant ses habitudes, enfin, sentant ce dont il a besoin, j'ai commencé par cette interrogation et par cette quête et cette enquête du centurion qui ne dissimule rien de ses crimes passés ou de sa participation à des répressions, à des crucifixions, etc., et qui, pas à pas, va se trouver changé. Et on sent bien qu'en lui, il y a aussi la question, est-ce que je dois aller plus loin ? Est-ce que je dois rester couché sur la terre, sous le soleil, immobile ? Pourquoi cet homme à qui était Dieu a-t-il fait cela ? Où est-ce que ça s'est passé ? Et on a beaucoup de chance parce que, enfin, on a beaucoup de chance. L'historien ou l'écrivain qui s'intéresse à cette période, et à Jésus en particulier, a beaucoup de chance parce que je ne crois pas qu'il y ait, je pense même qu'il n'y a pas de personnage de l'Antiquité sur lequel on est autant écrit dans la contemporanéité du personnage. Parce qu'un siècle, après tout, c'est la même période, j'allais dire. Et nous avons énormément de textes, ce qui permet de faire une description géographique, ça c'est plus facile, mais presque sociologique. Et presque, oui, en tout cas humaine, une description des métiers, des attitudes des uns et des autres. Autrement dit, mon Jésus est un portrait de Jésus avec groupe.
Et alors, voilà. Dans cet environnement, hein, avant d'en revenir à la question essentielle, donc à la fois Jésus, à la fois homme et Dieu, il y a donc tout cet environnement que vous décrivez d'une façon extrêmement précise et je dirais presque charnelle. Il y a deux éléments moi, qui m'ont personnellement frappé. Vous semblez avoir été fasciné par un personnage qui est Jean-Baptiste. C'est extraordinaire, le Jean-Baptiste de votre récit. Cet homme-là qui a à peine la peau sur les os et un courage fabuleux d'intervenir auprès de ce tyran
Hérode.
Hérode, dans cette histoire sordide avec Salomé. Enfin...
Écoutez, en tout cas, il est celui qui est avant, celui qui annonce. Et donc, c'est un personnage central, Jean-Baptiste.
Mais vous faites dire, dans votre texte, vous dites qu'en fait, Jésus lui a fait adresser quelque part un message avant qu'il ait la tête tranchée pour lui faire bien comprendre qu'il avait raison.
Absolument. Oui, je fais dire, mais oui, c'est dit aussi dans les évangiles, je crois. Je ne sais plus ce qui m'appartient et ce qui appartient aux évangiles, mais en tout cas, c'est comme ça que je le ressens. Et en même temps, c'est la reconnaissance par Jean-Baptiste de la personnalité de Jésus quand Jésus veut se faire baptiser comme n'importe quel homme. Car j'y reviens, ce qui est très important dans ce rapport que je tisse avec Jésus par l'intermédiaire du centurion Flavius, c'est l'humanité de Jésus. C'est ça qui m'intéresse. Je ne dis pas que ça se limite, la vie de Jésus ne se limite pas à son humanité, mais le va-va-va, le doute permanent, la nécessité d'affronter, la volonté d'affronter la mort la plus sordide.
Celle des esclaves.
Celle des esclaves, et c'est pour ça que je cite au passage les esclaves de Spartacus ou les Juifs qui ont été crucifiés précisément avec l'aide du centurion Flavius. Et ce refus à un moment donné de l'éponge chargée de myrrhe qui jouerait un peu le rôle d'un anesthésiant, il la refuse. Pourquoi ? Parce qu'il veut éprouver, en effet, ce qu'un homme éprouve quand il meurt de cette manière. Et c'est ça aussi la grandeur de Jésus et la révolution que représente le christianisme, à savoir le Messie de ce christianisme n'est pas un souverain, n'est pas un homme de puissance, n'est pas un homme de richesse.
C'est un homme souffrant.
C'est un homme souffrant, c'est un homme qui découvre et qui dit que l'autre est son semblable et qu'en même temps il est celui qui, quand il est ressuscité, va dire « mais je suis ressuscité chair et os, en somme, je mange, j'ai faim, donnez-moi à manger ». Donc l'humanité, elle est aussi présente dans la résurrection, non pas dans le passage, mais dans la résurrection. Et je crois que c'est ça la grande révolution, et c'est pour ça qu'à mon avis, cette religion-là résiste à toutes les modifications sociales, quels que soient les pas de que l'Église peut commettre, l'Église qui est une construction à la fois divine et humaine, mais au départ, il y a cette révolution, Jésus, l'homme qui était Dieu.
Alors venons-en à cette dualité-là. Et vous expliquez très bien d'ailleurs, quand vous dites que vous cherchez à rentrer dans, dans cette intimité, si cela est possible, la très grande difficulté pour le Christ d'accomplir sa mission. Vous écrivez « Chaque défi relevé, chaque acte accompli l'épuise et l'exalte, car il n'a d'autre source qu'en lui-même, et c'est Dieu qui l'a fait jaillir. Mais c'est son sang et sa chair d'homme qu'il donne pour que le miracle se réalise. » Et vous allez même jusqu'à écrire, à propos des réactions de Jésus au jardin de Gethsémani, donc peu de temps avant sa capture, vous écrivez ceci « Il est homme, faible et lâche. » Est-ce que vous n'êtes pas le premier croyant à oser employer ce mot à propos de Jésus ?
Il est lâche. Je ne sais pas. Parce que ce qui me frappe, si vous voulez, c'est qu'il surmonte sa lâcheté. En tout cas, il surmonte sa faiblesse. C'est ça qui est intéressant dans cette religion et dans la personnalité de Jésus. C'est que c'est de sa faiblesse que naît sa force. C'est la force des faibles qu'il exprime. Et c'est la force humaine qu'il exprime. Et c'est le miracle humain qui est tout entier dans un acte d'amour qu'il exprime aussi. De ce point de vue-là, il est en effet l'homme réalisé d'une certaine manière. Et c'est pour ça qu'il lui faut cette mort injuste mais souffrante pour précisément être vraiment l'incarnation de l'homme. Et quand il va vers les autres, ce qui touche les autres, Pierre, etc., ses apôtres autour de lui, c'est cette fraternité qu'il crée. En même temps, il est distant. J'ai essayé de montrer que tout en étant dans un groupe très fraternel, partageant le pain, partageant le vin, partageant la souffrance à la fin, il est celui qui est différent. Les apôtres sentent à la fois que c'est un des leurs, mais qu'en même temps, il est autre. Et celui qui, parmi les apôtres, Judas imagine, enfin c'est en tout cas une thèse que je défends, mais que d'autres avaient esquissé en tout cas, Judas est celui qui voudrait au fond que ce souverain qu'il sent présent dans Jésus, que ce souverain soit un souverain à la mode de la souveraineté humaine, c'est-à-dire qu'il soit un rebelle, qu'il utilise son rayonnement pour bouleverser les conditions humaines, sociales, et c'est ça le sens de sa trahison. Et peut-être vend-il Jésus uniquement pour que celui-ci soit contraint à la rébellion, devienne le messie d'une révolte, ce qui n'est évidemment pas la route choisie par Jésus qui va se retirer, va accepter d'être crucifié. Sans se renier, c'est-à-dire sans en même temps, mais le doute est présent. Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?
Oui. Alors ces questions, vous les rappelez quasi constamment. Hein. On sent, enfin en tous les cas pour vous, Jésus a résisté à l'idée d'être fils de Dieu et Dieu lui-même. Il a résisté souvent et de façon très très forte. Quoi. Et on a l'impression que c'est l'épreuve du désert qui a fait la bascule, c'est ça ? On a l'impression qu'à un moment...
Oui, je crois que ça...
L'épreuve du désert est Cana.
Voilà, moi je dirais plutôt Cana. L'épreuve du désert, oui, mais je dirais Cana parce que...
Là, il est face à son mystère.
Il est face à son mystère et en même temps, il est poussé à agir par l'amour que lui porte sa mère. C'est elle qui va lui dire, c'est très important pour moi ce passage, c'est elle qui va lui dire, il n'y a plus de vin, il ne trouve que de l'eau. Sous-entendu, si tu as la moindre capacité de changer les choses, change-les. Et on sent bien que, enfin, c'est, je crois me souvenir que j'ai écrit un passage sur les noces de Cana, où par exemple Jésus hésite, « Femme, ce n'est pas le moment », dit-il dans un premier temps. Et au fond, c'est un peu poussé par sa mère qu'il franchit le Rubicon, c'est-à-dire qu'il accepte ce mystère qui fait de lui le véhicule du miracle.
Et en même temps, vous dites qu'à ce moment-là, en faisant ce geste, bah, il sait qu'il va mourir.
Quoi. Exactement, tout à fait. Dans la mesure où il s'est dévoilé et sa fonction, son rôle après ce dévoilement, c'est précisément d'en payer le prix, c'est-à-dire de mourir comme homme. De renaître comme Dieu, mais de mourir comme homme.
Donc vous dites, vous, qu'aucune autre religion n'a établi avec cette force l'unité?
Non, je ne crois pas. Enfin, je ne suis pas du tout un expert, je ne suis pas un théologien. J'ai la foi du charbonnier et j'ai travaillé, comme je vous l'ai dit, à partir des évangiles sans me poser de questions historiques.
Charbonnier qui sait être un témoin, hein, parce que là, on vous suit pas à pas.
Délibérément. Non, je ne crois pas. Je crois que, si vous voulez, c'est très important que ce que je crois soit la réalité, enfin je souhaite que ce soit la réalité, je le ressens comme ça et je voudrais que nous en ayons tous conscience, puisque nous prions un homme dont nous connaissons le destin mortel. Nous connaissons aussi sa résurrection, enfin nous acceptons ce mystère de sa résurrection, mais d'abord nous avons une vie qui est marquée par la souffrance et nous l'acceptons. Nous acceptons un souverain qui n'est pas un souverain, nous acceptons un homme avec nos faiblesses, qui doit s'interroger chaque fois de savoir s'il va aller au-delà, s'il va être capable de surmonter l'épreuve. Il le sait et en même temps, il a peur chaque fois. Et sur la croix, quand il marche vers la croix, quand il s'interroge sur Dieu, il voudrait bien avoir la protection divine, et en même temps, il sait qu'il n'est là que pour ne pas avoir la protection divine. Et donc, en même temps, il est très important aussi que l'intermédiaire entre Dieu et l'homme soit un homme, c'est-à-dire quelqu'un avec cette faiblesse, mais ce soit en même temps un homme, c'est-à-dire quelqu'un que l'on peut interroger comme s'il était un homme. Et c'est pourquoi l'exégèse des textes des évangiles est liée tout à fait à cette nature de notre religion, à ce type d'origine de notre religion. C'est-à-dire que les évangiles ne sont pas des textes sacrés au sens où ils auraient été dictés par Dieu. Ce sont des textes qui sont le relevé de témoignages auxquels nous pouvons croire, mais que nous pouvons aussi confronter à d'autres. Donc l'exégèse et la critique et le doute ne sont pas... Le doute n'est pas seulement dans Dieu, dans le Jésus qui doute. De même, la critique n'est pas seulement en lui. Quand il critique les vendeurs du temple, quand il critique les rabbins, les puissants, les prêtres... Non, la critique, elle est inscrite dans sa condition. Et c'est pourquoi aussi cette religion, en dépit des crimes qu'elle a pu couvrir. Je parle de la religion, je pense à des épisodes bien connus, les guerres de religion, l'Inquisition, etc. Je n'ignore rien de tout cela. Mais en dépit de cela, elle renaît parce que, précisément, elle est la religion de l'interrogation, de la faiblesse, de la fraternité. Pensons à cette vision de la vocation monastique qui est donnée par le film sur les moines de Tibérine. Et nous voyons bien que les siècles ont passé, les millénaires ont passé, mais il y a la même attitude. Et ça, c'est très, très important.
Alors, dans son dernier livre, C'est une chose étrange à la fin que le monde, Jean d'Ormesson, donc votre ami de l'Académie française, écrit « Le coup de génie du christianisme, ce qui le distingue de toutes les autres religions, c'est l'incarnation, Dieu se fait homme, le Fils de l'homme est Dieu, et il ajoute, et d'une certaine façon, l'homme devient Dieu. » Cette dernière partie là, de phrase, « Et d'une certaine façon, dans le christianisme, l'homme devient Dieu. » Vous partagez cette analyse ?
J'ai lu le livre de Jean d'Ormesson que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup l'homme, j'adore l'homme et j'adore ses livres, et celui-ci en particulier. Mais je n'ai pas écrit cela. J'aurais dit « l'homme ne devient pas Dieu », mais c'est en effet le risque qui existe, c'est qu'il y ait une identification entre homme et Dieu. Ce qui n'est pas le cas de la part de la posture de Jésus, qui, sur la croix, n'est pas Dieu. Sur la croix, il est encore un homme qui meurt. Donc, dans toute sa vie humaine, jusqu'à la résurrection, il n'est jamais Dieu. Il est simplement un homme qui subit et exprime le mystère, mais d'une certaine manière, qui subit le mystère. Alors, je dirais, moi, que la grande révolution du christianisme, c'est non seulement de reconnaître en l'homme son semblable, mais de reconnaître dans l'homme une part de Dieu. Je ne dis pas l'homme était Dieu, je dis une part de Dieu.
D'où sa dignité.
D'où sa dignité, d'où le fait que tuer un homme, c'est se tuer soi, et c'est tuer une part de Dieu.
Une part de Dieu, oui. Mais sur le plan de la... Vous dites qu'il y a
Mais je ne suis pas théologien, vous me faites parler, pas théologien, mais je vous parle.
Non, mais je vous fais parler avec le cœur et donc avec ce qu'on a de chacun de plus profond. Vous dites donc qu'il y a une révolution radicale avec le christianisme, mais sur le plan de la sagesse humaine, je ne parle plus là de la part de mystère divin. Sur le plan de la sagesse humaine, en quoi le message des évangiles marque-t-il une révolution par rapport aux sagesses antérieures ou même aux sagesses contemporaines? Parce que Sénèque est contemporain du Christ. Oui, Sénèque accepte de mourir comme le Christ. En quoi y a-t-il vraiment une rupture totale ou une rupture fondamentale entre ce que le Christ propose par rapport à ce que propose les stoïciens?
La rupture fondamentale, c'est le mystère qui est celui de la résurrection.
C'est ça, mais sur le plan de la sagesse elle-même.
Sur le plan de la sagesse, on s'est beaucoup approché. Vous avez cité Sénèque.
Oui, je pense à lui parce qu'il était contemporain.
Vous avez tout à fait raison. Et j'ai écrit un livre, je ne sais plus lequel, sur l'Empire romain dans lequel il est présent. Je crois que c'est... Enfin, je ne sais plus lequel. Probablement un Néron. Mais quand je vous ai dit que c'était la religion la plus aboutie, je dirais que c'est la sagesse la plus aboutie. Parce qu'en même temps, elle admet cette faiblesse humaine. En même temps, elle est une sagesse. Après tout, un stoïcien ou un sage aurait pu dire que celui qui n'a jamais péché lui jette la première pierre. C'est une sagesse. Mais en même temps, il y a autre chose. Il y a l'Esprit Saint, il y a la Trinité. Il y a cette volonté de faire vivre ensemble, sans qu'il y ait superposition d'un des termes avec l'autre, ces trois éléments fondamentaux de la religion qui sont le Jésus, Dieu et l'Esprit Saint, c'est-à-dire finalement le mystère. Et je tiens beaucoup à ce mystère, j'y retrouve d'ailleurs un élément, par ailleurs je suis historien classique je dirais, Et après avoir écrit beaucoup de livres d'histoire, peut-être trop d'ailleurs, mais enfin après l'avoir écrit, je suis arrivé à la conclusion qu'il n'y avait qu'une seule... Il y a plusieurs années que je suis arrivé à cette conclusion qu'il n'y avait qu'une seule loi en histoire, c'était la loi de la surprise. Peut-être vous l'ai-je déjà dit. La loi de la surprise, c'est-à-dire que nous ne prédisons rien. Ne prédisons rien, sauf le fait qu'il y a une créativité, qu'il y a une surprise, qu'il y a un mystère, tel que sont le déroulement des événements. Je crois à l'événementiel, c'est-à-dire à l'événement qui nous surprend, même si après nous pouvons l'expliquer. Mais cette surprise, s'il y a cette loi de la surprise, c'est parce que précisément, nous sommes les fils de cette religion dans laquelle il y a une surprise qui est cette combinaison de Jésus, de Dieu, de l'Esprit-Saint et ce miracle de la résurrection. Si vous ne croyez pas à la résurrection, vous n'êtes pas chrétien.
Mais est-ce que votre métier d'historien ne met pas en cause fondamentalement quand même votre foi? J'ai repris des textes de vous. Hein. Dans ce livre de dialogue, la passionnante histoire particulière, vous écrivez ceci. « La réalité dans l'histoire, de force de destruction à la fois suicidaire et criminelle, car l'histoire est une succession de massacres, me paraît patente. Le mal et la mort ont partie liée, l'humanité est anthropophage. » Voilà ce que vous écrivez dans « Histoire particulière ». Dans ce très très beau livre-là, le roman des rois consacré au roi capétien, vous faites dire à votre héros, donc à propos des bûchers du début du XIVe, « Dieu n'a pas voulu cela, je le sais, mais si Dieu n'a pas voulu cela, il a laissé les hommes devenir les vassaux de Satan. » Comment peut-on croire à l'infinie bonté de Dieu quand on écrit des choses comme ça ?
Que j'assume tout à fait, je trouve même qu'elles sont très intéressantes, ces choses que j'ai écrites, que j'avais oubliées, mais je les reconnais, parce que Dieu nous renvoie à deux éléments qui sont jointifs, qui sont d'une part notre responsabilité et notre liberté. C'est-à-dire que là, les vassaux de Satan, en effet, nous plaçons notre liberté d'une certaine manière. Je ne crois pas à la prédestination ou à la grâce une fois pour toutes. Je crois au contraire que c'est pour ça aussi que j'ai voulu que mon portrait de Jésus soit le portrait de quelqu'un qui prend ses responsabilités dans le doute à certains moments donnés, qui doit se forcer, car la notion de liberté et de responsabilité sont consubstantielles. Et nous voyons bien que c'est un débat permanent. D'ailleurs, dans le premier texte que vous avez cité, j'emploie le mot « le mal », je crois.
Tout à fait.
Le mal et la mort ont partie liées, l'humanité est anthropophage.
Le mal et la mort ont partie liées, ça veut dire que nous avons choisi de ne pas croire. C'est ça la vérité.
Oui, c'est ça.
Donc, ça renvoie ma description de l'histoire humaine, si vous voulez. Elle est en effet conforme à la réalité. Je suis en train de travailler sur l'année 44, c'est-à-dire que je parcours les camps de concentration de destruction massive, Majdanek, Treblinka, Auschwitz, où je suis allé d'ailleurs, et où chaque fois vous frappe en effet cette présence du mal et ce choix de la mort par ceux qui se sont soumis au mal. Mais en même temps, vous avez toujours, dans ces moments de tragédie et de massacre, vous avez une étincelle.
Oui, la présence de la grâce. Oui.
Qui veut dire qu'il y a un autre chemin.
Oui, mais malgré
l'autre chemin, même si ce chemin n'est pas suivi, et c'est que j'ai écrit ça il y a 30 ou 40 ans, en disant que ce qui est toujours étonnant quand on étudie l'histoire, c'est de voir que sur un groupe d'hommes qui est voué à la mort, s'ils font un certain choix, vous avez toujours quelqu'un, et donc le choix c'est de dire vous allez être gracié à la condition que vous vous reniez. Et il y a toujours quelqu'un qui ne se renie pas. Et ça, c'est le choix de la liberté et le choix de la responsabilité. Et c'est le cas de ces moines de Tibérine qui ne se sont pas reniés et qui sont morts.
Mais ceci, Max Gallo, est vrai lorsque l'on
Mais
se...
Mais la mort, attention, j'ajoute
oui,
un mot,
oui.
La mort est suivie par la résurrection. C'est-à-dire que si, évidemment, vous vous placez dans une perspective où la mort est un tombeau hermétique, je dirais, hermétique à la transcendance, effectivement, il faut être un bourreau à ce moment-là. C'est beaucoup plus simple. Mais si vous vous placez dans la perspective d'une résurrection, d'un sens, d'une transcendance, à ce moment-là, vous assumez d'une certaine manière votre liberté et votre responsabilité.
Mais la dialectique liberté-responsabilité donc, correspond bien au mystère dans le règne humain. Mais si vous vous placez dans l'ordre animal, le principe fondamental de survie dans l'ordre animal implique comme loi naturelle la destruction. La destruction des bêtes les unes par les autres.
Ce n'est pas moi qui ai écrit ça, en tout cas.
Non, mais c'est vrai quand même. Et la souffrance comme conséquence permanente. Alors là, qu'est-ce que vous répondez? Je vous pose cette question parce qu'un jour, j'étais très frappé d'entendre l'abbé Pierre me dire, hein, je vous le dis très simplement, je dis, en fait, entre le Dieu tout-puissant et le Dieu infiniment bon, il faut choisir. Il ne peut pas être les deux en même temps. Et moi, j'ai choisi le Dieu infiniment bon. Parce que l'ordre animal est un ordre consensuellement, c'est un ordre de souffrance.
Mais pour moi,
il n'y a pas de liberté.
Pour
là.
Moi, je suis profondément homme. C'est-à-dire que je ne confonds pas l'humanité avec l'animalité. Pour moi, il y a une rupture fondamentale qui est précisément la naissance de la conscience humaine. Cette conscience humaine, elle est marquée par la liberté et la responsabilité. Donc, quand on m'oppose la réalité cruelle, sans cruauté d'ailleurs, la réalité tout court de la dévoration des êtres vivants les uns par les autres, je dis, la différence, c'est que ces êtres vivants ne sont pas des hommes. Et que l'homme, précisément, a eu la grâce d'être placé devant la responsabilité de basculer dans la régression qu'est une animalité, ou au contraire, de basculer du côté de la transcendance qui est autre chose.
C'est reste le mystère de Dieu, alors, dans ce cas-là.
Reste le mystère. J'ai commencé notre entretien en disant que au cœur de l'histoire, au cœur de mon livre, il y a la notion de mystère. Et le mystère fait partie de notre réalité humaine.
Alors, vous disiez donc tout à l'heure que la révélation chrétienne avait quelque chose de supérieur à tout ce qu'on peut envisager.
Supérieur, je n'ai pas employé ce mot.
Non,
j'ai dit le plus abouti.
Plus abouti. Qu'est-ce que vous pensez de la thèse qui est défendue aujourd'hui? Je pense par exemple à ce livre, d'ailleurs thèse très bien défendue et sans arrogance, le livre de Jean-Pierre Denis, le directeur de La Vie, « Pourquoi le christianisme fait scandale ?» lorsqu'il dit que, face au monde contemporain, avec d'un côté un capitalisme mondialisé et déshumanisé, et de l'autre des fondamentalismes musulmans qui nous ramènent à l'Inquisition, finalement, la dernière contre-culture, c'est le christianisme. Est-ce que
c'est une idée que vous pouvez accepter ? Tout à fait, et je dois vous dire que, pour être tout à fait complet dans les racines de ma décision pour écrire ce livre, il y avait aussi le fait que nous sommes en effet confrontés à une autre grande religion monothéiste, pour laquelle nous devons avoir du respect, comme pour tout comportement humain, quand il est dicté par un souci d'élévation, ce qui est le cas de l'islam. Et en même temps, je voulais affirmer notre singularité par rapport précisément au fondamentalisme islamique notamment. Je voulais affirmer notre singularité et dire « voilà ma religion », ce qui ne veut pas dire qu'elle est supérieure, mais pour moi c'est la plus aboutie, elle existe, elle doit être vécue et assumée et proclamée d'une certaine manière.
Mais pour vous, au fond, en quoi notre monde aurait été différent si Jésus n'avait pas existé ?
Ça, c'est une hypothèse que je n'admets pas. Non, mais attendez, je n'admets pas, la réponse serait trop facile. Je suis incapable, structurellement, mentalement, de répondre au type de question. Et si Napoléon n'avait pas perdu la bataille de Waterloo, qu'est-ce qui se serait passé ?
Napoléon n'est pas le Christ.
Je suis totalement incapable. Donc, les choses sont ainsi. Je ne peux pas vous répondre autrement.
Puisque vous parlez de Napoléon, et donc on peut revenir à toute votre grande carrière d'historien. Le 21 octobre dernier, Le Figaro vous a consacré une page entière, justement, à l'occasion de la sortie de ce livre, avec ce titre « Max Gallo, 60 millions d'élèves ». Alors, est-ce que vous vous reconnaissez dans cette image de premier professeur d'histoire en France ?
Non, elle est trop flatteuse.
Dieu
veuille que j'ai 60 millions d'élèves.
Bon, vous avez près d'une centaine de livres, avec une moyenne de 50 à 80 000 exemplaires. Alors, on fait le compte, ça fait déjà pas mal. Hein.
Oui, d'autant plus qu'il y a les éditions de poche, il y a les traductions,
tout ça est vrai.
Et d'ailleurs, je constate, si vous voulez, que je reçois beaucoup de lettres où effectivement, ce sont des lecteurs, où on m'interpelle dans la rue, ce sont des lecteurs qui apprennent quelque chose par mes livres. Par exemple, il y a avant-hier, je me suis trouvé à un feu rouge, un monsieur s'est approché de moi, il m'a dit « merci parce que vous m'avez appris à comprendre la Révolution française ». J'ai écrit deux volumes sur la Révolution française. Je ne dis pas que ça fait trembler à moi une intense satisfaction, car j'ai suffisamment de lucidité pour voir que tout ça est fugitif et passager, mais j'ai le sentiment d'avoir contribué à développer un mot que j'aime beaucoup, la lucidité. La lucidité, ce qui ne veut pas dire la froideur, ce qui veut dire simplement essayer de comprendre. Moi, j'essaie de comprendre pour moi, et si ça peut aider les autres à comprendre les événements dont je parle, j'en suis fort ravi.
Vous disiez donc en commençant que vous aviez essayé donc d'écrire ce livre, enfin au point de départ, pour mieux vous comprendre aussi. Qu'est-ce que ce livre vous a permis de découvrir sur vous-même, profondément ?
Écoutez, ma propre fragilité, et peut-être c'est un livre de la fragilité qui est là présente, c'est-à-dire la confrontation avouée avec précisément la disparition et la mort. Et donc, mon rapport a probablement changé avec les ans, bien entendu, et aussi, et cette écriture de ce livre vient à ce moment-là. Donc, d'une certaine manière, c'est la découverte de la faiblesse.
Et en même temps, c'est quelque chose qui vous permet de mieux assumer aujourd'hui les drames intimes que vous avez pu vivre, comme d'autres.
Oui, ça je ne sais pas, mais en tout cas, la découverte de la faiblesse, oui.
Alors, vous faisiez allusion donc, tout à l'heure à ce texte de Mauriac, donc, que vous avez mis en exergue. D'ailleurs, à côté d'un très beau texte de Renan aussi.
Inattendu, parce que l'image que nous avons de Renan, qui a souvent été donnée dans les milieux catholiques, c'est une image quasiment d'antéchrist.
Oui, oui.
Alors que là, c'est un texte que je trouve très beau, que j'ai placé aussi.
On peut le relire,
si volontiers, oui, volontiers.
Bon, je vais le lire maladroitement, mais à moins que vous vouliez le lire, vous le ferez mieux que moi, tenez.
Non, je ne vais pas le lire, je vais pas mieux, parce que... Mais je trouve que c'est un texte qui est intéressant. Mais, quels que puissent être les phénomènes inattendus de l'avenir, Jésus ne sera pas surpassé, je suis tout à fait de cet avis. Son culte se rajeunira sans cesse, je pense que c'est tout à fait vrai. Sa légende provoquera des larmes sans fin. Ses souffrances attendriront les meilleurs cœurs. Tous les siècles proclameront qu'entre les fils des hommes, il n'en est pas né de plus grand que Jésus.
Pour un antéchrist, c'est quand même un merveilleux texte.
Oui, mais ça. Par exemple, j'ai été interviewé par une jeune journaliste, que je ne citerai pas le quotidien ou l'hebdomadaire ou le mensuel dans lequel elle écrit, mais qui me dit, écoutez, c'est le plus beau compliment que j'ai reçu, j'ai été plusieurs fois obligé de m'interrompre dans la lecture de votre Jésus, car je pleurais. Ça me touche parce que c'était sincère, comme me touche, par exemple, la lettre de quelqu'un qui, un vieux lecteur que j'ai, une fois je suis allé à Espalion, dans l'Aveyron, et j'ai fait une signature de livre, et j'ai vu arriver un très vieux monsieur qui m'a fait signer un livre, mais très vert, etc., avec lequel depuis j'entretiens une correspondance, et qui me dit, dans sa lettre, qu'il a lu ce livre, et qui dit « Je marche allègrement vers mes 100 ans le 1er juin 2011 ». Ce « marche allègrement », j'ai trouvé que c'était une bouffée d'oxygène qui nous était donnée, qui m'était donnée en tout cas.
Je vous accepter de nous faire quelques confessions. Je vais vous poser une question très intime, hein, toujours à propos de cette phrase de Mauriac, donc une vie de Jésus, il faudrait l'écrire à genoux. Est-ce qu'il vous arrive souvent, vous-même, de vous mettre à genoux en pensant à Jésus ?
Ça m'arrive.
Ça vous arrive ?
Ça m'arrive.
Quand vous priez comment ? Vous priez à travers des prières toutes faites ou
prières arrivez... toutes faites, mais les prières toutes faites sont celles que ma grand-mère m'a récitées. Et je trouve que la prière... Quel que soit ce qu'on pense de la prière, et même, je dirais, quel que soit le rapport qu'on a avec l'Église, la prière, est, surtout quand on l'a récitée depuis l'enfance, la prière recrée autour de vous une sorte de bulle intemporelle. C'est-à-dire que vous êtes à l'intérieur des mots récités qui ont une charge millénaire, qui ont une charge affective pour vous, puisque vous les avez appris le plus souvent dans l'enfance. Et donc, c'est une bulle qui, d'une certaine manière... nous protège le temps, quelques minutes, le temps d'une prière, et nous renvoie à l'essentiel.
C'est une bulle qui participe de la transcendance.
Tout à fait. Et je crois d'ailleurs que la mission de l'Église, quoi qu'on pense de son histoire humaine, la mission de l'Église, c'est de permettre aux hommes qui veulent bien la fréquenter, l'Église, aller à la messe par exemple, à travers un rituel qu'on peut discuter sur le point de détail, etc., de nous replacer, de nous obliger à nous replacer hors du temps contemporain, hors du temps quotidien. C'est-à-dire de nous obliger à être confrontés précisément à la mort, au sang et à la chair, et à la communion. Je crois que les églises, cette fois-ci, je dirais pour toutes les religions, sont des lieux ou devraient être des lieux où précisément l'homme, dans ses questions fondamentales, est au centre du rituel.
Dans la grande période de tolérance de l'histoire espagnole, qu'on appelait la convivencia, il y a un souverain qui avait eu un rêve, qu'il n'a malheureusement pas pu mettre en œuvre, mais il voulait créer un lieu de prière où viendraient successivement les catholiques, les musulmans et les juifs. Ça vous paraît une idée folle ou quelque chose qu'on pourrait essayer de faire aujourd'hui ou est-ce que
Non, il y a toujours des tentatives pour réaliser ce type de rencontre. Il y a la communauté de Sant'Egidio qui est en Italie, qui a été inaugurée, je crois, par Jean-Paul II. Je crois que c'est une confrontation, mais elle suppose qu'il y ait entre ces religions l'acceptation de l'autre religion, bien entendu, un sentiment de fraternité et donc de ne pas vouloir imposer sa propre vision du monde et l'imposer en termes de fanatisme. Et je crois que le fanatisme guette toutes les religions. On appelle ça peut-être aujourd'hui l'intégrisme, mais en tout cas, le fanatisme, c'est l'aveuglement. C'est quand on veut que, à travers une religion, l'homme devienne Dieu, pour reprendre la phrase de Jean d'Ormesson.
Ainsi s'achève notre émission. Je rappelle le titre du récit que Max Gallo vient de publier donc aux éditions IXO, Jésus, l'homme qui était Dieu. Un livre qui intéressera, au-delà même du monde des chrétiens, tous ceux, vraiment tous ceux qui se réclament d'un certain humanisme. Max Gallo, merci.
Merci beaucoup.
Et merci à tous et à toutes d'être avec nous.